Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Bienvenue dans Les vraies voix. Vous avez reconnu ce son. En ce 27 novembre, un certain Aimé Jacquet fête ses 79 ans. Et toutes, oui, toutes les vraies voix sont quelque part des clones des Bleus de 98. Avec sa capacité à orienter le débat et à mettre des coups de boule quand le besoin s'en fait sentir, c'est le Zinedine Zidane des vraies voix, Philippe Bilger. Bonjour.
Bonjour, mon cher Philippe. Vos comparaisons sont de plus en plus discutables.
Avec son gabarit poids-plume, sa vitesse d'accélération dans la réponse et sa manière de gérer les va-et-vient du bloc équipe, c'est la Didier Deschamps des vraies voix, Yaël Mellul. Bonjour.
C'est moi, ouais, bonjour.
Et en plus avec le brassard de capitaine.
Hey.
En plus. Avec son impact physique et sa capacité à faire la police dans la défense, c'est le Marcel Desailly des vraies voix.
Ah, ouais.
Abdoulaye Kanté.
The Rock.
The Rock, absolument. Non, quand il joue à Chelsea, voilà. Absolument. Comme il veille sur les réseaux sociaux de l'arrière, c'est le Laurent Blanc des vraies voix, Jean-Marie Bordry. Avec sa manière de déclencher les frappes depuis la touche et depuis les touches, c'est le Thierry Henry des vraies voix, Jamel Alaria. Elle poste sur les réseaux sociaux à la vitesse où le Snake, Youri Djorkaeff, mordait, Aurore au web. Et enfin, elle garde le standard avec une attention de chaque instant. C'est la Fabien Barthez des VV, avec des cheveux, haut au standard. Nos débats du jour à 17h30. Un tiers des jeunes Français donnent tort à Samuel Paty. Êtes-vous choqués ? À 17h42, notre second débat. La gauche peut-elle gagner en 2022 ? Oui, c'est Anne Hidalgo qui l'affirme à condition de faire l'union. Et ce sera d'ailleurs notre duel. Ça fait déjà rire Yaël Mellul. Et ensuite, à 18h30, le grand débat. Producteur de musique tabassé, est-ce la faute du gouvernement qui a toujours nié les violences policières ? Vous connaissez les numéros pour réagir. Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Ça va les VV ?
Ça va.
Très bien, mon cher Philippe.
En pleine forme ?
C'est parti.
En pleine forme.
C'est bientôt le week-end.
C'est vendredi, hein.
Ah oui,
c'est vendredi.
Ouais.
Donc c'est ravioli.
Non, ah c'est bon. Philippe David.
Allez, c'est parti pour le tour de table de l'actualité.
Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros.
Vous voulez une petite blagounette, tiens, qu'on m'a raconté ce week-end ?
Mais non !
Qu'est-ce qui est petit et marron ?
Je sais même plus.
Un marron.
Le tour de table.
De l'actualité.
Et comme toujours, c'est le capitaine qui parle en premier, qui récupère la coupe. Donc, c'est Yaël Mellul.
Alors, moi, je vais vous parler
d'un... Et qui fait la causerie, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Alors, moi, je vais vous parler d'un ce qu'on appelle un fait divers qui m'a absolument mais stupéfait. Ça se passe à Saint-Denis, dans un immeuble, lundi dernier.
Alors, je vous coupe, à Saint-Denis, dans la Seine-Saint-Denis, hein, pas à Saint-Denis de la Réunion ou...
Non, dans la Seine-Saint-Denis, à côté, là, où un groupe de dealers fait régner la terreur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une copropriétaire qui fait visiter l'immeuble à une société de nettoyage et elle tombe sur un groupe de six jeunes. Dans ce groupe, elle demande à un des jeunes de ramasser le mégot qu'il vient de jeter par terre. Et là, c'est absolument un festival d'insultes que je vais nous épargner. Et il y a des locataires qui sortent pour prendre la défense de cette malheureuse jeune femme. Et ces jeunes, qui sont manifestement des dealers, lui jettent des projectiles et promettent de revenir lui faire sa fête, hein, quelque part. Hein. La femme qui était extrêmement inquiète, elle va au commissariat pour déposer une main courante. Et là, on ne peut pas lui enregistrer la main courante, pas de bol, le logiciel est cassé.
Ah.
Le soir même, la promesse est tenue, mais là, c'est plus à 6 qu'ils sont, c'est à 30 qu'ils viennent. Ils vont directement au premier étage voir les hommes qui étaient venus prendre la défense de cette jeune femme. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils défoncent la porte, saccagent l'appart, volent l'argent et alors là, c'est le summum. Ils prennent un des occupants et ils le jettent par la fenêtre. Donc l'homme aujourd'hui est hospitalisé, blessé à la jambe. Tout ça pour un mégot de cigarette. Donc, il n'y a plus aucune limite aujourd'hui. Dans certains territoires qu'on appelle les territoires perdus de la République. Mais alors, ils sont vraiment perdus, hein, ils sont complètement lost. C'est-à-dire que là, maintenant, ils font leur loi. Tout ça parce qu'on a le malheur de leur dire de ne pas saccager les locaux. Ils viennent, ils font des représailles, bam, ils rentrent, ils cassent tout. Et on termine jeté par la fenêtre.
C'est hallucinant.
Moi, je suis bouche bée.
Après l'avocat, je fais réagir à la police. Après, au magistrat, que fait la police?
Le souci, c'est qu'effectivement, c'est un fait divers qui est dramatique, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, je pense que ce n'est même pas la première fois qu'il y a ce genre de fait divers. Parce que quand une personne qui veut avoir de la tranquillité chez elle, notamment dans certains quartiers, et si elle a envie de gêner, on va dire, le trafic de stupes, vous vous rendez compte, vous habitez chez vous, il faut que vous gênez un trafic de stupéfiants. Et j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est quand même hallucinant. Et surtout, en plus, bon, après, il faut toujours avoir des éclaircissements, notamment que quand elle dit qu'elle est partie au commissariat pour déposer une main courante pour ce genre de fait, c'est vrai qu'il ne faut même pas déposer une main courante, c'est qu'il faut appeler le 17 et que les policiers viennent justement sur place pour constater et pour intervenir. Parce qu'effectivement, c'est vrai que ce n'est pas acceptable. Et s'il y a une défaillance qui est reconnue de notre part, il faut aussi le reconnaître et tout, ce n'est pas bon du tout.
Philippe Bilger, vu ce qui s'est passé, on va redonner la parole à Yael Mulu juste après, la réponse pénale à ce type d'acte, elle est zéro en général?
Non, pas du tout. Avant de donner la parole la nouvelle fois à Yael, vous me la donnez, parce que sinon je ne l'aurais peut-être plus. Mais... mais elle a été très complète et très pertinente dans la description qu'elle a faite de, j'allais dire, de cet épisode. Mais au fond, je me demande si derrière ces péripéties de plus en plus violentes, au-delà même des mobiles et des ressorts apparents, il n'y a pas de plus en plus l'envie de certains, dans les territoires perdus ou ailleurs, de libérer une part de violence qu'ils ont en eux. Je veux dire, c'est très clair. Alors je pourrais parler des modalités, des supports d'expression, mais là, lorsqu'on voit ce déchaînement de violence, d'absurdité, je me demande si malheureusement il ne faut pas accepter l'idée que certaines personnalités, au-delà même de la moindre motivation, n'ont pas besoin de libérer une violence et de s'en prendre à l'autre. Je me pose la question, ouais. Et comme ça, peut-être que Yael sera de mon avis.
Moi, je suis de ton avis, Philippe. Moi, je pense que c'est juste un prétexte complètement débile pour marquer, ouais, pour marquer son territoire et son pouvoir, tout simplement. Mais je voudrais aussi rajouter une chose. Faut pas aller faire des mains courantes, ça sert à rien. Vraiment.
Exactement, ça ne sert à rien. Il faut appeler
le
17.
Ça ne sert à rien. Il faut appeler le 17, point barre. Voilà, c'est tout vrai. De suite, immédiatement. Il ne faut plus rien laisser passer. Même si les flics, ils ont peur de rentrer dans certains endroits, bah,
non,
c'est pas grave, il faut quand même les appeler. Hein.
Ils n'ont pas peur.
J'espère.
Non mais
j'espère.
Que risquent ceux qui ont saccagé un appartement et défenestré quelqu'un? Déjà, s'ils sont mineurs, ils prennent rien.
Ils sont mineurs. Non, pas du tout. Non. C'est qu'ils prennent quelque chose parce qu'il y a une réponse pénale qui.
C'est pas bien, faut pas le faire.
Il faut qu'elle soit, adaptée.
Non, Philippe, n'exagérez pas. Vous êtes toujours très nuancé dans le domaine judiciaire. Mais non, je ne sais pas qui sont les personnes dont parle Yael. Il est évident que si on les interpelle, compte tenu de la gravité de ce qui est fait, et j'espère que la justice saura pour une fois agir rapidement, ils seront condamnés. Alors je ne garantis la condamnation auquel Philippe pourrait aspirer, mais ils seront condamnés. Alors Philippe, n'exagérons rien,
quand même, c'est quelque chose
même pour les mineurs. Même pour les mineurs.
Oui, mais ceux qui ont saccagé l'appartement et qui auront dérabé, c'est pas prouvé qu'ils aient participé à la défenestration. Philippe, on va pas se prendre l'histoire, ils prennent pas grand chose pour ça.
Je pense qu'avec les services enquêteurs, justement, ils vont pouvoir retrouver des traces et indices, justement, avec de l'ADN, etc., pour pouvoir essayer d'établir les individus.
Les gens qui habitent là, est-ce qu'ils peuvent encore rester dans cet appartement?
Il y a un sentiment de peur, effectivement, mais après, je pense que ça soit plus profond, parce qu'il faut aussi que, je pense qu'au-delà que ce soit la police, il faut que les municipalités, que vraiment que ça aille encore plus loin, qu'il y ait vraiment une véritable j'ai envie de dire, même plus réflexion, c'est que là, il y a des, vous avez des points de deal. Je prends l'exemple de Saint-Ouen, où même le maire
qui est le supermarché de la drogue en Île-de-France,
qui aura travaillé. Effectivement, le maire a été maintes et maintes menacé. Donc, il y a des intimidations et que ça continue toujours. Donc, aujourd'hui, s'il n'y a pas une politique forte, limite coup de poing, pour essayer d'éradiquer ce phénomène, forcément, on arrivera à ce genre de drame.
Ce genre de drame. Vous êtes bien dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Il est 17h passé de 13 minutes. C'est Vraies Voix en compagnie de Philippe Bilger, Yaël Mellul et Abdoulaye Kanté. Le débat continue. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Yaël Mellul, Abdoulaye Kanté. On continue ce tour de table de l'actualité avec Abdoulaye Kanté. Omar Sy accusé de racisme après avoir parodié une chanson d'Aya Nakamura. On écoute le son ? Allez, on écoute.
Parle-moi doudou, ouais. J'aime-moi, c'est tout, ouais. Montre-le-moi, c'est tout, ouais. Parle-moi doudou, ouais. Parle français, sois clair. Tu n'as pas à le faire. Non, ça n'a pas de derrière.
Et c'est donc pour ça qu'il est accusé de racisme.
Non mais... Est-ce que tu te rends compte que quand même qu'on parle de quelque chose, une parodie, quelque chose pour faire rire, et il faut que tu sois accusé de racisme. Mais je pense que on est devenu dans une société où maintenant il faut cataloguer les gens. Voilà, c'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui maintenant il faut les mettre dans des cases, etc. Ils rigolent et franchement ça m'a fait rigoler. Moi je retrouve le Omar Sy qui me fait rire. Voilà, c'est pas le Omar Sy qui dans ce qui est politique, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose où je me dis mais pourquoi l'accuser de racisme alors qu'en fait c'est quelque chose qui a fait rire tant de personnes. Les chansons de Doudou, ça me fait rigoler.
Ah oui.
C'est parce que je suis noir.
Mais il y avait même une pub, c'est mais qu'est-ce que tu bois
ben,
Doudou
ben oui, donc, c'est ça. Donc après
une marque de jus de fruits qui commençait par un O qui finissait par un S.
C'est ça. Après il y a des choses aussi voilà donc où effectivement on tout de suite on assimile quelque chose qui est censé être marrant, que c'est on rigole. C'est à un moment donné je pense qu'on est tellement stressé de l'esprit. On est dans un diktat culturel, etc. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir se détendre. Il rigolait juste. Il est en train de rendre un hommage à Aya Nakamura, qui, justement, voilà, son album, il marche bien. Donc, moi, je trouve que c'est bien de rendre hommage à cette manière. Et en plus, de manière ironique, enfin, je vois pas où est le problème. Donc, s'il est accusé de racisme pour ça, du coup, il y a du racisme partout.
Philippe Bilger, vous qui avez connu les années 60-70, aujourd'hui...
Auriez dû remonter un peu plus loin.
Non, mais vous permettez, je les ai connus moi aussi.
Vous qui avez connu Fernandel voilà. Dans sa jeunesse.
J'ai connu les tranchées, hein.
Oui, bien
sans
sûr.
Problème.
Non, est-ce que vous trouvez
mais
pas
sérieusement, je serais plus nuancé que notre ami Abdoulaye. Parce que d'abord, la parodie, comme lui, m'a fait rire. Ah ben voilà. Mais j'y ai vu un juste retour de bâton pour Omar Sy, qui est un très bon acteur, mais qui en général se pique de donner des leçons d'antiracisme à beaucoup de gens. Et cette histoire démontre qu'il y a toujours plus antiraciste que soi, et j'espère qu'il en tirera des leçons à l'avenir, en étant moins justicier sur les attitudes et les propos des autres.
Yaël Mellul.
C'est vrai qu'il s'est pris un retour de bâton, un méchant retour de bâton, hein, de son propre camp quelque part, hein, parce que c'est les attaques de racisme qu'il a reçues viennent du camp qu'il a l'habitude de défendre. Donc c'est, à mon avis, il a dû être extrêmement, extrêmement surpris. En réalité, il reprenait les sketchs qu'il faisait dans son émission de Canal. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est très drôle.
Le SAV des émissions, je le rappelle.
Ouais,
avec Fred Testo.
Oui, un Fred Testo. Hein.
Et ce camp qui se dit antiraciste manque sévèrement d'humour, à la fois dans ce genre de sketch
c'est
et
preuve,
aussi
c'est
par rapport aux caricatures. Hein, c'est un petit peu le même esprit. Hein.
Je pense que c'est une preuve là, concrète de l'hypocrisie de ces personnes qui justement prônent l'antiracisme à tout va comme ça, or qu'en fait, il n'en est rien. C'est que justement, le racisme justement n'était pas une indignation à géométrie variable. Donc c'est parce que vous avez traité quelqu'un de raciste et tout d'un coup, les personnes vous traitent de raciste parce que vous avez justement fait un spectacle là-dessus, enfin des émissions là-dessus. Et là, tout d'un coup, ça vous revient entre parenthèses dans la tête. Et donc, je trouve que quand même, c'est à la fois hypocrite et qu'à un moment donné, voilà, le racisme, ça ne doit pas être une indignation entre portages à géométrie variable. Voilà, le racisme doit être combattu, mais ça, je suis désolé, donc voilà, c'est une espèce d'hypocrisie.
Est-ce que pour vous, Abdoulaye, vous êtes noir, on peut rire des noirs, Yael Mellul, vous êtes juif, on peut rire sur les juifs.
Oui,
est-ce qu'on, moi, pour moi, on peut se moquer des Français, j'ai aucun problème là-dessus. Quand j'étais à l'étranger, je peux vous dire, quand j'étais étudiant, que j'étais en stage en Angleterre, je me faisais chambrer par les Anglais pour le rugby, parce qu'on ne gagnait pas beaucoup à l'époque contre eux, et qui me disaient, quand on cherche l'odeur de l'ail, et c'est que t'es dans le coin. Parce que pour eux, les Français sentaient l'ail. Oui, je n'aurais jamais fait de scandale.
Il y a aussi une manière, je pense, aussi peut-être de rigoler sur certaines choses. Voilà, il y a des choses qui peuvent aussi...
Aucun sens de l'autodérision.
Oui, après, il y a une chose.
Ah non, mais... Il y a deux choses. D'abord, je considère qu'on peut rire de tout le monde sauf de moi. Ça, c'est fondamental.
Pourtant, il y a de la matière.
Et Yael en sait quelque chose. Et deuxième élément, Aya Nakamura, elle suscite des réactions un peu étranges, puisque vous le savez qu'un député de la République En Marche a trouvé qu'elle était un parangon de la langue française et qu'il fallait la célébrer au-delà de toute mesure. Elle rend un peu fou ceux qui parlent d'elle.
Oh, je pense qu'on est aussi quand même un peu dur avec elle, parce que même si effectivement on dit certains n'aiment pas trop sa musique et tout ça, etc., je trouve quand même que c'est quand même une réussite à la française. Même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve que Aya Nakamura, c'est une réussite à la française. Après, effectivement, voilà, ses textes ou peuvent.
Vous êtes sous le charme, Abdoulaye.
Bon, mais voilà, d'accord, ok. Bon, je ne serai pas objectif.
Philippe Bilger, je vais lâcher des dossiers parce que j'ai été en votre compagnie à un concert d'Aya Nakamura.
Ah,
c'était avec Yvan Cujou, c'est l'équipe du Loft Music. Vous vous rappelez, aux Francopholies, il y a un an et demi.
Il m'a fallu longtemps pour m'en remettre. Exactement.
En plus.
Avec Philippe.
Oui, j'y étais.
Oui.
Mais Yael, on était très loin de la scène et donc je n'ai pas pu percevoir la profondeur des paroles.
Allez. Oh bah tiens, eh ben écoutez, on va écouter un morceau des paroles, tiens, Jamel.
Aime-moi doudou, aime-moi doudou, montre-la moi doudou.
Ouais, Philippe en train de danser.
Ah bah. Et je peux vous dire que Philippe Bilger, qui dansait sur du Aya Nakamura, c'était d'une rare sensualité.
Dire que c'est ça qu'Abdoulaye porte au nu, non mais c'est pas possible.
Yael Mellul, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est terrible, il y a plein de choses. Omar Sy, qui était très donneur de leçons, et là je suis assez d'accord avec Philippe Bilger, qui se fait lyncher. Aujourd'hui on ne peut plus rien dire, tout sur les réseaux sociaux, notamment, peut vous valoir une volée de bois vert.
Mais je trouve ça vraiment terrifiant, et vraiment je persiste à dire que tout ça, ça manque sévèrement d'humour et d'autodérision. Mais pour avoir de l'autodérision, il faut avoir une certaine intelligence, dont manque assez cruellement, manifestement, ce parti, ce camp du bien.
C'est là, ma chère Yael, vous avez démontré l'intelligence supérieure de Philippe Bilger, qui dit qu'on peut critiquer tout le monde sauf lui. Ça prouve,
c'est évident.
Ça prouve qu'il est
évident.
D'une intelligence, on va le dire, allez, stratosphérique. Vous êtes bien dans les vraies voies. 17h24, dans quelques instants, notre premier débat. Un tiers pour un jeune Français sur trois, Samuel Paty a eu tort de montrer les caricatures. Êtes-vous choqué? Et pour le moment, vous êtes 65% à dire oui. Vous voulez réagir? Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300, et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Yael Mellul, Abdoulaye Kanté. Selon un sondage IFOP, un jeune sur trois donne tort à Samuel Paty sur les caricatures de Mahomet. Dans le détail, un tiers des jeunes Français jugent injustifié de montrer des caricatures en classe. Par ailleurs, toujours selon ce sondage, pour une partie des 18-30 ans, la laïcité se rapprocherait davantage d'un concept islamophobe plutôt que d'un instrument de vivre ensemble. Un tiers des jeunes qui donnent tort à Samuel Paty. Est-ce que ça vous choque? J'attends vos réactions au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Pour le moment, vous êtes 65% à dire oui, ça vous choque sur Twitter. Philippe Bilger, comment analysez-vous ce chiffre, est-ce que ce n'est pas quelque part la sécession, comme on parlait de la loi contre la sécession, d'une partie de la jeunesse?
Vous avez raison, Philippe. Ce résultat est très déprimant. parce qu'au fond, on peut toujours imaginer le pire avec l'évolution de notre époque, mais tout de même, un tel résultat est absolument angoissant. Et il me fait réfléchir moi-même, et je fais référence au débat passionnant qu'on a eu il y a quelques jours avec Yaël, par exemple, sur Mila. Je suis en train de me demander si, face à de tels résultats, il faut que je n'arrête pas de faire dans une nuance que j'espérais intelligente à l'époque. Je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas que je sois plus net en disant qu'on a le droit de tout faire, parce que finalement, faire dans la nuance, eh bien, je ne sais pas si c'est bien perçu par des jeunes esprits qui ont des conceptions très étranges, pour ne pas dire plus, de la laïcité et de la liberté d'expression. C'est vraiment incroyable.
Abdoulaye Kanté,
je pense qu'effectivement, c'est inquiétant parce que justement, moi, j'ai ma fille qui est en...
Bien dans le micro.
Pardon. J'ai ma fille qui est en CE2, là, et sa maîtresse, en fait, a comme programme la tolérance cette année. La tolérance. Et je pense qu'effectivement, le jeune, justement, il y a un manque de pédagogie, peut-être, je pense, et aussi, face à ce genre de drame qu'il y a eu, c'est que le professeur en question expliquait, justement, qu'est-ce qu'il y avait le droit de caricaturer. On peut aussi comprendre aussi que des personnes soient choquées hein, par rapport à certaines images et tout ça. Mais quand c'est fait sous le joug de la pédagogie, de l'explication, et qu'on voit qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne s'y retrouvent pas, c'est qu'il y a quand même une faillite au niveau de notre, j'ai envie de dire, notre pays par rapport à l'éducation civique, à l'explication en fait, des valeurs qui font notre République.
Ça rejoint un peu quelque part ce que vous disiez sur l'humour. Là maintenant, on ne peut plus rien faire sur les régions. Yaël Mellul, c'est pas... très inquiétant, un tiers des jeunes qui sont quelque part en sécession.
C'est inquiétant, c'est déprimant, mais en même temps, c'est pas surprenant. Moi, j'avais déjà été assez extrêmement choquée, et depuis de nombreuses années, quand déjà on avait appris que les professeurs avaient de très, très grosses difficultés à apprendre la Shoah dans les écoles, qu'ils se faisaient même conspuer, qu'ils finissaient par avoir peur même, hein, avant qu'il y ait le drame absolu de Samuel Paty. Je crois qu'on arrive à un constat qui est terrible, quoi. Il y a une défaite de la pensée absolue et l'éducation nationale a failli quelque part. Il n'y a pas que des problématiques au sein des familles, c'est l'éducation nationale qui, je ne sais pas, il y a des lacunes phénoménales qu'on n'a pas réussi à combler, manifestement. Et c'est effectivement très, 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 très inquiétant. Et on le voit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est le reflet de notre société. On voit toute cette violence, toute cette agressivité. Et ça, ça reflète. C'est ça ce qu'on voit.
Philippe Bilger veut réagir.
Philippe, c'est aussi, et Yaël, je rejoins ce qu'a dit Yaël et Abdoulaye, il y a quelque chose de très signifiant dans tout cela, c'est qu'on a parfois tendance à penser que notre corpus humaniste, laïcité, liberté d'expression, est accepté, compris, approuvé par tout le monde. On a constaté que nos concepts sont très peu, sont incompris dans beaucoup de pays, qui nous traînent dans la boue, qu'ils sont incompris, et c'est encore plus grave, par des parts relativement importantes de notre population, et notamment par les jeunes. Et donc, ça devrait nous obliger à reconsidérer ou à exprimer d'une autre manière des principes, des valeurs qui, à l'évidence, n'impressionnent plus.
Je voulais vous poser une question. Quand une bonne partie des jeunes considèrent que la laïcité, c'est davantage un concept islamophobe plutôt qu'un instrument de vivre ensemble. Vous avez peut-être vu il y a quelques semaines Sarah El Haïry qui était à Poitiers avec des jeunes. C'était absolument impressionnant, qui était, mais on peut le dire, limite totalement endoctriné, qui disait que la laïcité, c'était une loi qui avait plus d'un siècle, qu'il fallait donc la supprimer, que les religions, on n'avait pas le droit de les caricaturer. C'était absolument, mais d'un obscurantisme total. Philippe, c'est Yaël qui parlait de l'éducation nationale, mais Mais comment est-ce que des jeunes peuvent avoir des idées comme ça? C'est inculqué par les associations, par les familles? Qu'est-ce qui se passe?
Mais parce que comme il y a certains territoires où justement la République n'arrive pas à passer son message, et c'est une réalité, il faut le dire aussi, c'est qu'il y a une réalité où effectivement aujourd'hui la République a peut-être lâché certains quartiers, et ça a donné aussi le boulevard à certaines associations extrémistes qui justement religieux, qui ont permis justement à pouvoir avoir ce genre de discours. Parce que quand vous avez une secrétaire d'État qui va pour expliquer ce que c'est que le séparatisme, justement la laïcité, etc., et qu'au final on la rejette, c'est que justement c'est que les jeunes n'arrivent plus à entendre ce genre de discours. Et qu'il est, je pense aussi, que l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation doit faire triplement plus pour essayer de faire comprendre que voilà, on a le droit de caricaturer sans évidemment...
Mais avant de donner la parole à Yael Elul et d'aller au 0826-300-300, Sarah El Haïry a demandé une enquête sur l'association qui s'occupait des jeunes qu'elle avait rencontrés à Poitiers. Yael Elul.
Oui, moi, ce qui m'a choqué dernièrement, mais vraiment, ça m'a même bouleversé, c'est de voir qu'on était en train de discuter sur la polygamie. Je veux dire, il y a des principes en France.
Et les certificats de virginité,
ce qui est scandaleux.
Oui, il y a des principes en France qui devraient être intouchables, indiscutables, dont fait partie la polygamie. Et qu'on puisse encore aujourd'hui, ne serait-ce qu'en débattre, en discuter, pour moi, c'est un fiasco, mais total de la société dans son entier. C'est des sujets sur lesquels c'est tellement la base de notre société, c'est tellement le socle de notre morale sociétale qu'on ne devrait même pas avoir à en parler quelque part. Et on en est aujourd'hui à en débattre. Mais c'est, on va où? On va débattre de quoi après
Philippe Bilger, rapidement, parce qu'on va au 0826-300-300.
Juste ajouter un mot à ce qu'a dit Abdoulaye. Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit une faillite de la République, parce qu'on en abuse un peu du terme République. Je pense qu'il faut accepter l'idée aussi que dans ces jeunes générations, il y a une pauvreté culturelle absolue. Et cette pauvreté culturelle fait qu'on n'est pas capable de comprendre tout un terreau humaniste. Abdoulaye, laissons tomber la République. Il ne faut pas que ça devienne en permanence une sorte d'alibi.
Non, pas tout le temps, c'est sûr.
Oui, mais Philippe, justement, pour s'ouvrir à ces notions essentielles, il faut apprendre à analyser, à réfléchir, à s'ouvrir l'esprit. Et déjà, avant toute chose, à bien parler notre langue, le français. Déjà,
ça c'est
correctement,
essentiel.
On va... l'orthographe, la grammaire, voilà. Donc, cette base-là aujourd'hui n'est pas acquise par une grosse part de la jeunesse. Quand on voit, on en rigolait tout à l'heure, mais la chanteuse, j'arrive jamais
Aya Nakamura.
Voilà.
C'est
bon,
bien elle.
Quand aujourd'hui on dit d'elle qu'elle est une représentante de la langue française, pardon, mais mes bras m'en tombent, quoi. Enfin, je veux dire, non.
Direction le 0826-300-300. Bonsoir, Marie.
Bonsoir à tous.
Qui n'est peut-être pas fan d'Aya Nakamura, mais qui veut réagir sur le sujet.
Exactement, exactement. Exactement. Et bien en colère. Bon, je me suis calmée. Écoutez, pour moi, Samuel Paty est mort en héros. C'est un martyr. Tous les jours, j'en ai marre qu'on salisse son image. J'ai mal pour ses parents. J'ai mal vraiment pour ses parents. Ce monsieur, il n'a fait qu'appliquer le programme de l'éducation nationale. Et je ne comprends même pas, je profite de qu'on me donne un petit peu l'antenne pour dire, j'avais une sympathie pour Ségolène Royal, j'aurais jamais voté pour elle, mais j'avais une sympathie pour cette femme.
C'était donc une sympathie limitée.
Une sympathie limitée, mais quand même, le jour où elle a pris la parole chez Bourdin, les bras me tombaient, je veux dire, c'était inaudible. Quand cette femme peut se permettre de dire qu'elle peut comprendre que certaines personnes puissent être choquées, par les caricatures et par ce qu'a fait
Samuel Paty. C'était sur CNews,
c'est pas possible. Je veux bien que, Philippe Hudger dise c'est pas la République, mais cette femme, elle représente la République. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit. Je suis en colère. On n'a pas le droit. Ce monsieur, je le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Je suis de profession catholique. Ça me plaît pas toujours quand on critique le Christ, quand on critique le pape. Mais j'en ris. Et si j'ai pas envie de regarder parce que ça peut me blesser quelque part, je ne regarde pas, je ne lis pas. La faute de tous ces jeunes, c'est la faute des parents, c'est les parents. C'est
une responsabilité, eux, effectivement.
Et bien, bien sûr, c'est pas l'éducation nationale, je suis pas d'accord avec Gaël, c'est la faute des parents. C'est les parents qui embrigadent les enfants, ils entendent des discours. Et je pense que c'est même pas le fait d'être choqué par des caricatures, c'est que les parents sont contre la République. Ils ont l'impression qu'ils sont dans un pays où on les rejette constamment. Donc, ces enfants, ils écoutent tout au long de la journée, et bien, un rejet de la France.
Alors, Marie, on va faire réagir les vraies voix. Restez avec nous. Abdoulaye Kanté, Marie, elle dit quelque chose de très intéressant. À l'école, on enseigne, à la maison, on éduque.
Effectivement.
Et c'est sûr que si les parents disent que la République, c'est en dessous des lois de la religion, etc., ça pose sérieusement problème et ça explique peut-être ce sondage.
Et effectivement, je pense que ça, c'est un gros danger. C'est qu'aussi, il faut que les parents aussi comprennent qu'ils sont dans une République laïque et que justement, à partir du moment qu'ils ont accepté d'être en France, etc., et que les enfants vont dans une école française, il faut aussi qu'ils en épousent les valeurs. Donc ça, on n'en disconvient pas. Mais après, la question que je me pose aussi, est-ce que, à un moment donné, ces parents aussi, on a fait en sorte de les intégrer, de leur faire comprendre vraiment le concept de la République française. C'est ça la question. C'est qu'aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont carrément désintéressés de ce qui fait nos valeurs aujourd'hui, cette République. Et Philippe disait que oui, mais bon, on ne doit pas tout mettre sous le dos de la République, mais est-ce que la République fait en sorte aussi de se faire comprendre auprès de ses parents, de ces personnes qui justement n'adhèrent pas à cette unité ?
Philippe Bilger.
Moi, je ne veux pas engager un débat avec la si sympathique Marie, mais moi, je n'ai pas trouvé Ségolène Royal scandaleuse. Et j'ose le dire précisément parce qu'elle a cherché à tenir une voix médiane. Elle a dit que ces caricatures pouvaient choquer, qu'elles relevaient d'une forme de pornographie, mais qu'elle affirmait le droit absolu de les publier. Et je pense que tenir les deux bouts de cette chaîne, je sais qu'il y a elle... va me contredire probablement là-dessus, est tout de même un signe de maturité démocratique.
On peut comprendre que ça choque. Philippe, on peut comprendre que ça choque, c'est une évidence. Mais à partir du moment qu'on explique, évidemment, ça peut choquer, mais cela ne donne pas, n'autorise pas jusqu'à aller tuer.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Et ça, c'est évidemment, c'est.
Ah, mais c'est clair.
Mais le problème, c'est quand il y a politique. Juste pour. Juste une minute. Juste pour finir.
Le mot de la fin pour Yael.
C'était l'ambiguïté des propos de Ségolène Royal. C'était que quelque part, ça venait comme le fait d'être choquée venait être comme une justification d'actes beaucoup plus graves. C'est cette ambiguïté là, moi, qui m'a révoltée quelque part. Et puis on en a parlé, Philippe. C'était
il y a
deux semaines, je crois, aux vraies voix, hein, tout à fait.
Surmila.
Absolument. Et maintenant, par rapport à Marie, à ce que vous dites et
sur l'éducation et l'enseignement, ce qui n'est pas la même chose. L'école, elle enseigne,
absolument.
Les parents, ils éduquent.
Mais justement, absolument, mais l'école, elle devrait être là justement pour pallier aux carences parentales. Et c'est pas le cas, ce n'est plus le cas. Et enfants d'immigrés, ça ne justifie rien. Je veux dire, moi aussi, je suis une enfant d'immigré et on m'a inculqué les valeurs de la République, on m'a inculqué le respect de l'autorité, on m'a inculqué le respect de la laïcité. Je veux dire, les fêtes juives, ça ne m'a jamais empêché de suivre une scolarité normale. Manger cachère, ça ne m'a jamais empêché d'aller manger à la cantine. Je n'ai jamais fait chez personne, ni pour les examens, ni pour quoi que ce soit. Ça, effectivement, ça vient de la maison. Ça, c'est vrai, ça vient de la maison. Et si à la maison, on nous inculque pas le respect de l'autorité avec un grand A et de la République, eh ben, il faut trouver un moyen que l'éducation nationale vienne compenser cela.
Merci.
Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Merci beaucoup, Marie de Paris, de votre intervention. Verdict sur Twitter. Pour un jeune sur trois, Samuel Paty a eu tort de montrer les caricatures. Êtes-vous choqué ? Vous êtes dit oui à 68%. Dans quelques instants, notre second débat. La gauche peut-elle gagner en 2022 ? Vous êtes 84% à dire non. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, le leader maximo des vraies voix.
Voilà.
Docteur ex-marxisme. Yael Mellul, la passionnariat des vraies voix pour être à gauche.
La révolution.
Et la révolution dans la moitié. Et Abdoulaye Kanté, le Karl Marx des vraies voix. Le Lénine, tiens, des vraies voix. Ah, ouais. Si la gauche. Oui, parce que vous avez le même bouc de barbe, c'est pour ça.
C'est ça.
Si la gauche sort de ses divisions, elle peut gagner. Cette phrase est d'Anne Hidalgo après quelques brouilles avec les Verts au Conseil de Paris. Anne Hidalgo appelle à l'unité autour d'une promesse républicaine et sociale. Et puis, souvenez-vous, en mai dernier, plus de 150 responsables de gauche avaient signé une tribune baptisée « Construisons l'avenir ». Parmi eux, Yannick Jadot, Olivier Faure, des communistes, des membres de Génération, le mouvement de Benoît Hamon, sans compter François Hollande qui appelle au rassemblement et a même proposé un changement de nom pour l'EPS, socialiste au pluriel. Y a-t-il un espoir pour la gauche de gagner en 2022? Vous êtes 84% à dire non et c'est l'heure du duel.
C'est l'heure du duel!
Un duel entre Alain de la Haute-Garonne et Philippe Bilger. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Pour vous, la gauche ne peut pas gagner en 2022.
Moi, je dis que je ne vois pas un homme politique de gauche qui puisse rassembler toutes les tendances de la gauche. Mais moi-même, je ne suis pas de gauche, donc je ne suis pas un spécialiste de la gauche. Par contre, je tiens à dire que je trouve parfois de bonnes idées dans n'importe quel parti. Voilà. Et moi, je ne suis pas inscrit à un parti. Je suis un papy de 79 ans. Voilà, qui a une certaine expérience. Et si vous voulez que je vous dise ce que je crois, eh bien, je vais vous dire ce que je crois, c'est ce que j'espère surtout. Moi, je vois quelqu'un qui, je crois, serait capable de prendre le volant de la France et de restaurer notre France qui va bien mal depuis longtemps déjà.
Eh bien,
je veux parler du général Pierre de Villiers, ancien général, chef d'état-major des armées.
Voilà. Eh bien, Pierre,
quand on est général, on a l'expérience du terrain. On n'est pas général d'un seul coup. Vous êtes déjà sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, colonel, etc. Donc vous avez une expérience qui se forme. C'est pas comme quelqu'un qui sort des grandes écoles, on lui donne tout de suite des responsabilités, mais il connaît pas le terrain, il connaît pas le peuple.
Alors, voilà. Alain, restez avec nous. Philippe Bilger va réagir, mais il pense que la gauche peut gagner.
Pour l'instant, mon cher Alain, on va laisser le général de Villiers de côté parce qu'à ma connaissance, il n'est pas de gauche. Mais plus exactement, comprenez bien que je ne souhaite pas la victoire de la gauche, mais je pense qu'il ne faut pas insulter l'avenir et qu'on pourrait se trouver face à une configuration qui serait celle-ci. Nous avons un socle qui ne bougera pas beaucoup, celui qui de toute manière assure un pourcentage substantiel à Marine Le Pen. Nous avons à l'heure actuelle un socle qui se retrouve assez régulièrement dans les sondages en faveur d'Emmanuel Macron, puisque tout le monde prédit, et peut-être à tort, un duel entre Macron et Marine Le Pen. Mais imaginons que la gauche puisse en effet trouver une personnalité qui la réunisse, et on peut penser par exemple en effet à Anne Hidalgo, ou peut-être demain à Arnaud Montebourg, qui rassemblerait l'ensemble de la gauche, eh bien on pourrait arriver à un pourcentage pour la gauche unie qui pourrait réaliser cette catastrophe pour le pouvoir qu'Emmanuel Macron serait éliminé dès le premier tour. Comprenez bien que c'est une hypothèse, je n'y crois pas totalement, parce qu'en effet il faudrait trouver quelqu'un qui pourrait réunir toute la gauche. Mais c'est pas absurde.
Moi je crois qu'elle peut réunir toute la gauche puisqu'elle est de gauche, c'est Yael Mellul.
Alors oui, c'est vrai, je suis de gauche,
Et qu'est-ce que c'est de gauche en 2020?
Vous avez 4 heures.
Et en plus, socialiste à la base.
Ah, il y en a une.
Ben oui, mais j'ai dit à la base, hein, mais ça fait quelques années que je ne le suis plus. J'aimerais le redevenir quelque part. Et j'aimerais partager l'espoir de Philippe, mais je ne le partage pas, hélas, parce que je ne vois vraiment pas comment ce qu'on a appelé les deux gauches irréconciliables pourraient se réconcilier aujourd'hui, surtout quand je vois réapparaître des personnes comme Hollande ou Valls, dont le niveau de détestation est assez spectaculaire. Quand j'ai vu l'article, je crois qu'il a donné une interview dans Le Point il y a quelques jours, et qui dit si on m'avait écouté, mais le melon du garçon,
oui, c'est vrai, il a raison d'ailleurs.
Sinon quoi. Il a raison. Il l'a fait combien?
Si on l'avait écouté, il aurait des problèmes qui auraient été réglés.
En Espagne, il en voit que lui sur les plateaux. Donc moi, je vois pas comment. Si Valls veut faire un retour au Parti socialiste, je suis pas certaine qu'on pourra espérer un retour du Parti socialiste justement. Et vous parliez de Montebourg, une réunification. Valls a tiré à Géry, il a eu des mots extrêmement durs contre Montebourg il y a encore quelques jours. Bien vraiment, sûr. je vois pas.
Anne Hidalgo.
Alors, le mot de la fin, pas au gardien, au juge de la paix, mais au gardien de la paix, il ne l'est plus d'ailleurs, Abdoulaye Kanté, la gauche, elle peut gagner en 2022.
Mais je poserais juste la question, est-ce que la gauche a réussi à se relever de l'arbre de destruction massive Macron de 2017?
Ah bah ça, c'est un très bon sujet. Vous avez 4 heures, voilà. Ce sera un excellent sujet de philo. Verdict sur Twitter. La gauche peut-elle gagner en 2022? On était à 84% à dire non, vous étiez, et vous êtes maintenant 85% à dire non. Merci beaucoup Alain de Haute-Garonne. Et on va jouer un petit peu.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Il est là avec tambour, trompettes et miaulements. Jean-Marie Bandry.
Et tapis rouge, j'espère.
Ah bah bien sûr. Oui,
une des deux couleurs de Sud Radio. Salut les amis. On va jouer aussi avec Sylviane au 0826-300-300. Bonsoir à vous Sylviane.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Sylviane. Vous êtes je crois à Saint-Étienne. Bienvenue à vous et allez les verts. Toujours Sylviane. Sylviane, avec vous, on va jouer. Je vais vous proposer, de choisir une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres. Alors, Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté ou Yael Mellul?
Le premier, Philippe.
Allez, Philippe Bilger.
C'est une arme de séduction massive.
Les gens me font trop confiance.
Ce que je vous propose, j'ai posé trois questions. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les bonnes réponses. Sylviane, à chaque fois, toute seule, répond en premier. Si jamais elle n'a pas la bonne réponse, les trois vraies voix peuvent se battre. On verra quelle équipe l'emporte. D'accord? On est parti?
Allez,
aujourd'hui, Sylviane, on va y aller à la louche et réviser un petit peu notre histoire. C'est l'anniversaire du décès d'une reine de France célèbre, Blanche de Castille. C'était la mère de Saint-Louis. À plus ou moins 50 ans, d'après vous, en quelle année est-elle disparue?
C'est la mère de Saint-Louis, vous dites?
Oui.
Dans les années, plus ou moins la louche, 1111,
vous êtes en dehors des 50 ans. Bel juste prix pour les vraies voix. Philippe Bidger.
Pourquoi lui?
Je dirais c'est vers 1200, non? Quelque chose comme ça.
Alors, quelque chose comme ça. Mais j'avais dit à plus ou moins 50 ans. Elle est décédée en 1252, mon cher Philippe Bidger. Vous y étiez presque.
Voilà.
Pourtant, vous étiez déjà né à cette époque-là, Philippe Bidger.
J'attendais cette blague.
Elle est arrivée un peu tardivement, cette blague.
Oui, c'est vrai. Elle est arrivée un petit peu tardivement. J'attendais plus tôt. Je vous accorde le point, Philippe Bidger, parce que c'est pour Sylviane et qu'elle est de Saint-Étienne. Allez, on continue. On va parler d'un anniversaire, je vais vous demander de deviner, anniversaire d'une naissance. C'est une femme politique qui est toujours femme politique aujourd'hui, une ancienne ministre. Elle a été ministre entre 2007 et 2012. Elle a été récemment candidate aux élections municipales quelque part en France. D'après vous, qui cela peut-il être, ma chère Sylviane?
Martine Aubry.
Non. Non, parce que c'était une ministre entre 2007 et 2012.
C'est vrai, elle était avant.
Nadine Morano?
Marisol Touraine.
Non plus.
Non.
On est à droite entre 2007 et 2012.
À droite, oui. Alors,
ministre de droite.
Ministre de droite.
Elisabeth Guigou, on peut aider un peu? Son prénom est Rachida.
Si Philippe David vous tue le jeu, ça sert à rien.
J'ai aidé. J'aime les verts. Elle a dit tout de suite, Sylviane.
J'étais persuadé que Philippe Bilger connaissait la date de l'anniversaire.
Mais non, mais vous êtes tellement intelligent, mon cher Jean-Marie. Parfois, j'ai du mal à comprendre vos questions.
Ah bah oui, c'était vrai que c'était très difficile là pour le coup. Allez, vous avez toujours un point. On termine un petit peu d'étymologie, ma chère Sylviane. Il y en a un à gagner après. C'est la période des calendriers de l'Avent. D'où vient le mot avant? D'après vous, Sylviane, je vous donne deux possibilités. Réponse numéro 1, du mot avant, A-V-A-N-T, parce que c'est la période avant Noël. Réponse numéro 2, du latin adventus, parce que ça veut dire l'arrivée. L'arrivée
de Noël. Oui, la deuxième possibilité.
Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs, on peut rappeler... Le calendrier de l'Avent, ça s'écrit A-V-E-N-T. Exactement. Mais c'était le bon moment d'avoir cette réponse, ma chère Sylviane, parce que du coup, vous avez deux points, vous avez gagné.
Bravo.
Ah ben, c'est super, merci.
Et vous allez pouvoir faire gagner à qui vous voulez, quelqu'un qui vous est cher, j'espère, eh bien, un calendrier de l'Avent, soit pour chien, soit pour chat, de la marque Ultima, ma chère Sylviane. Vous choisissez quoi?
De quoi comme
pour chien ou pour chat? Si c'est pour chat, c'est au saumon frais. Si c'est pour chien, c'est au poulet frais.
Pour chat. Non, pour chat.
Alors, pour chat. Mais écoutez, vous savez à qui vous allez offrir ou pas?
Bah oui, à ma fille, elle a un chat.
Il s'appelle comment?
Qui s'appelle Gribouille et qui a 19 ans.
Eh bah, écoutez, un vieux chat. On est très ravis de lui faire ce cadeau.
Félicitations,
Gribouille. Ça valait le coup de jouer Gribouille et gagner ce calendrier de l'Avent de la marque Ultima. Voilà. Croquette au saumon frais grâce à Philippe Bilger. Merci beaucoup, Sylviane.
Bravo à tous. Merci.
Bravo. Dans quelques instants, notre débat, producteur de musique tabassée, est-ce la faute du gouvernement qui a tourné les violences policières? Vous êtes 71% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
En ce 27 novembre, il n'y a pas qu'Aimé Jacquet qui fête son anniversaire, un certain Philippe Delerme fête ses 70 ans. Et toutes les vraies voix sont quelque part des titres de livres de Philippe Delerme. Sur son grand braquet, il grimpe tout ce qui bouge. Ce serait donc la tranchée d'Arenberg et autres voluptés sportives, Philippe Bilger. Avec son bonheur de parler des mères juives, elle serait... Le miroir de ma mère, Yaël Mélul.
Ah oui, vraiment.
Comme il est policier et qu'il fait les contrôles d'alcoolémie plus vite que son ombre, il serait la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, Abdoulaye Kanté.
Là, c'est plus ses contrôles de masque. Hein.
C'est vrai. Comme il a toujours sa souris en main pour veiller sur les réseaux sociaux, il serait Mr Mouse ou la métaphysique du terrier, Jean-Marie Bordry. Comme il est notre réalisateur, il serait enregistrement pirate, Jamel. Comme elle est une vraie geek, elle serait l'extase du selfie et autres gestes qui nous guident, Aurore au web. Enfin, comme elle n'a pas une minute à elle au standard, elle serait la sieste assassinée. C'est Aude qui vous répond toujours au 0826-300-300 avec du sourire dans la voix. Ça va les VV, prêts pour cette deuxième heure?
C'est parti.
Ouais. On est en pleine forme, mon cher Philippe.
En pleine forme.
Ça vous allait, la tranchée d'Arenberg? Je sais que vous adorez le cyclisme, Philippe Bilger.
Oui, puisque j'avais dit au début que j'étais dans les tranchées, donc...
C'était hier.
Eh bien écoutez, c'est parti pour... Le Paris-Roubaix de l'émission, le tour de table de l'actualité.
T'es partant pour un deuxième tour.
Non, il faudrait sérieusement penser à grandir la table.
À mon tour.
Le tour de table
de l'actualité.
Et c'est à votre tour, Philippe Bilger.
Décidément, on ne va pas quitter dans cette émission, et je le comprends, l'inouïe brutalité de ces policiers hier. Mais... Je vais en profiter tout de même avec une totale injustice, j'en ai conscience, pour dénoncer ces sportifs qui croient nécessaire de faire des tweets pour donner leur avis sur des violences accomplies par des policiers. Je pense à quelqu'un que je n'ai jamais aimé sur le plan intellectuel. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de problèmes de ce côté-là, c'était Antoine Griezmann. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Kylian Mbappé. Et je regrette que ces deux footballeurs, tout à coup, aient eu envie de faire des tweets comme ça, à la suite de ce qui mobilise l'indignation, comme si nous avions besoin de l'avis d'Antoine Griezmann pour savoir que la police peut parfois commettre des actes inqualifiables. Ça me désole de la part de Kylian Mbappé. Je ne voudrais pas qu'il tombe dans ce travers de certaines vedettes de laisser croire que leur avis surtout est attendu et nécessaire au prétexte qu'ils sont absolument fabuleux sur un terrain.
Yaël Mélul.
Et pardon, Philippe, je peux ajouter un mot?
Allez-y.
Alors, d'autre part, j'aimerais bien de la part de Mbappé ou de Griezmann que lorsque la police est massacrée, eh bien, elle ait droit aussi à quelques tweets.
Alors, on a un petit problème de liaison avec Ayel Mellul. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais dire une chose, parce que sur Twitter, on dit beaucoup que Griezmann et Mbappé, vous dites, Philippe, on ne les a pas entendus pour Samuel Paty. Alors, il faut remettre l'église au milieu du village. Antoine Griezmann a été en tête d'une vidéo qui a été faite pour les élèves pour la rentrée des vacances de la Toussaint après l'assassinat de Samuel Paty. Et le même jour, Kylian Mbappé faisait un message sur son compte Twitter défendant les professeurs. Yael Mellul.
Ça, c'est les professeurs.
Oui.
Yael. Autant j'entends ce que tu dis, Philippe, qu'on n'a pas besoin de la vie des sportifs surtout et n'importe quoi. Autant là, ces images sont tellement insupportables, c'est tellement bouleversant que moi je peux comprendre qu'ils aient eu envie de manifester justement leur stupéfaction. Je même si leur avis au niveau intellectuel n'est pas forcément indispensable, mais là tout le monde a été bouleversé par ces images, tout le monde. Donc, je trouve ça complètement...
Pardon. Griezmann est tout de même le gars qui, en 2017, n'était pas fichu de donner le nom d'un homme politique français, et notamment qui se présentait à la présidentielle.
C'est vrai, je trouve qu'il y a comme un hiatus.
Pardon.
Je suis sûr que vous faites un sondage dans la rue. 95% des gens ne sont pas capables de vous dire les noms de tous les candidats à la présidentielle de 2017. Hein. Il n'y a pas que les footballeurs.
Vous les savez, Philippe, bien sûr.
Peut-être même pas tous. Abdoulaye Kanté, il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire après 3 ans et demi.
Voilà, on est tous d'accord que par rapport à cette indignation, par rapport aux images qu'on a vues concernant Michel, d'ailleurs j'ai une pensée pour lui, effectivement sont inacceptables et c'est vrai que c'est choquant. Maintenant, effectivement, dans cette indignation, il y a toujours effectivement une forme de récupération donc des personnalités, donc effectivement pour montrer leur soutien envers certaines personnes, etc. Je vais rejoindre Philippe aussi sur un côté où effectivement, je pense que oui, il est nécessaire d'entendre leur voix parce que ce sont eux qui font aussi la France, hein, même si ce sont des stars du sport, notamment du football, hein, qui justement est vraiment un socle dans notre société. Mais aussi, je pense aussi qu'il faut savoir aussi s'indigner aussi pour d'autres choses aussi, pour ceux aussi qui font cette République. C'est-à-dire, j'aurais aimé aussi peut-être aussi avoir un mot pour nos collègues qui sont morts sous les balles de terroristes. J'aurais aimé aussi un mot pour des collègues justement qui meurent, comment dire, quotidiennement par des chauffards, justement des personnes qui font un refus d'obtempérer, qui sont agressées, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est bien d'avoir... je pense que c'est bien qu'ils s'indignent, mais qu'ils ne s'indignent pas seulement que d'un côté, il faut s'indigner pour tout le monde, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un silence assourdissant, je pense, des personnalités quand il s'agit de policiers qui sont agressés, voire tués. Et là, par contre, oui, c'est la police. Mais après, j'entends aussi cette espèce de terme scandaleux dire « c'est leur métier ». Je trouve ça scandaleux.
Le mot de la fin, Philippe Bilger, comme c'était votre tour de table ?
Non, mais je rejoins ce qu'a dit Abdoulaye et je peux aussi, pardon de jouer au centriste un peu mou, Yaël n'a pas tort, je ne suis pas, si je n'étais pas animé par une sorte d'agacement face à Griezmann, s'il ne s'était agi que de Kylian Mbappé, peut-être que je me serais dispensé de ce point de vue.
Ah ben ça c'est intéressant, merci beaucoup Philippe Bilger, dont on sait désormais... Qu'il est un centriste mou qui préfère Mbappé à Griezmann. Vous êtes bien...
Largement.
Vous êtes bien dans les vraies voix sur Sud Radio.
Et il sait parler français, Mbappé, au moins.
Il est 18... Bah, Griezmann aussi, il n'est pas mauvais dans
pas
le
beaucoup,
domaine.
Pas beaucoup, pas beaucoup. Je vous défie de trouver quelques phrases cohérentes et structurées de Griezmann.
Hein. Mais on ne demande pas aux footballeurs de parler à l'imparfait du subjonctif non jouer. Plus. On leur demande de bien jouer, voilà.
Vous les voulez comme des imbéciles. Merci. Ah non, non.
Je les veux qu'ils gagnent. Il est 18h presque 16. On va continuer ce tour de table de l'actualité. On va parler des discothèques qui sont toujours fermées. On sera en compagnie de Thierry Fontaine, président de l'UMIH Nuit, branche des métiers de la nuit et propriétaire de 4 établissements à Lyon. Et la situation est catastrophique pour les discothèques. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David.
Dans ce quatrième tour de table de l'actualité, on va parler des discothèques qui sont fermées depuis le 17 mars, c'est-à-dire depuis 8 mois et demi, et qui n'ont pas de perspective de réouverture. On a entendu les annonces du président de la République en début de semaine, et pour les discothèques, ce sera à Pâques ou à la Trinité. Nous sommes en compagnie de Thierry Fontaine, président de l'UMIH Nuit, la branche des métiers de la nuit, et propriétaire de 4 établissements à Lyon. Thierry Fontaine, bonjour.
Bonjour Philippe David.
On n'a pas entendu d'annonce du président de la République. Vous, vous avez des syndicats, notamment l'UMIH. Est-ce que en off, on vous donne un peu des infos ou pas ?
Alors non. On est depuis le début les grands oubliés à chaque fois. On s'en plaint d'ailleurs régulièrement. C'est peut-être pour ça que le président de la République a cité deux fois dans son discours mot discothèque. Sinon, je pense qu'il se souvient même plus que ça existe, comme beaucoup de Français. Ça fait exactement 258 jours. Que nous sommes fermés aujourd'hui. On sait que ça fera un an bientôt, puisqu'on se doute qu'on ne sera pas du déconfinement du 20. Ce qui nous attriste beaucoup, c'est que l'entourage du président avait clairement dit qu'à la prochaine allocution, donc celle qui vient de passer, le président de la République donnerait une visibilité à tous les Français qui comprenaient qu'on ne pouvait pas travailler en faisant de la politique des petits pas, la petite semaine, et qu'il fallait qu'on puisse savoir où on allait. Eh bien ça, il l'a fait pour tous les Français, sauf 1600 patrons de discothèques. Et ça, c'est quand même regrettable et c'est très discriminant.
Mais comment est-ce que vous faites pour vivre ? Parce que vous avez zéro recette depuis 9 mois. Il y a les aides de l'État, ça fonctionne pour vous ou pas ?
Alors, les aides de l'État, elles ont commencé à couvrir à partir du mois de juin. Il faut savoir qu'il y a encore 10% des gens qui n'ont toujours pas touché les aides du mois de juin. Il faut le savoir.
Ah oui ?
Ah oui.
Ah bah,
faut pas être pressé,
on est presque en décembre.
Ah bah oui, mais vous savez, c'est des discothèques, donc c'est quand même moins important que le reste. C'est non essentiel, comme diraient certains. Donc oui, on n'est pas pressé. On a un ministre qui se bat avec nous, qui est Alain Griset, pour qu'on puisse obtenir ses aides. Mais je pense qu'il est en permanence en train de chercher un arbitrage à Matignon, qui, je pense, pour le Premier ministre, c'est pas une grande nécessité. Il faut savoir, quand je vous dis qu'il reste 10%, les 90% qui ont déjà eu les aides, elles les ont eues dans le mois qui vient de s'écouler. Elles les ont pas eues en août. C'est-à-dire que ça a commencé à tomber, les aides, à partir de mi-octobre, fin octobre, et sur le mois de novembre. Mais c'est très long. Et il faut savoir qu'il y a 314 discothèques qui ont déjà... ou sont en liquidation ou en redressement judiciaire.
Ah oui.
Donc quand on nous avait dit que personne ne déposerait le bilan à cause du Covid, on l'avait bien entendu, mais alors je sais pas, peut-être qu'une liquidation judiciaire, ça s'appelle pas déposer le bilan, mais il me semble que si.
L'aspect ultime d'un dépôt de bilan, c'est la liquidation judiciaire.
C'est ça.
Soit il y a continuation d'activité, soit il y a liquidation.
Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est peut-être pas comme ça que l'entrevoit Bercy, ou je sais pas. En tout cas, il y a un raté là-dessus, puisque ceux qui ont déjà perdu leurs entreprises, c'est fini pour eux.
Les vraies voix. Yael Mellul, vous entendez ça, c'est terrible.
Ah, c'est terrible, c'est super triste. C'est un pan de l'économie qui a été complètement abandonné. Et en même temps, je vois pas, à part que les aides arrivent plus rapidement, je vois pas d'autres solutions, puisque par définition, dans les discothèques, la distanciation sociale est compliquée. Donc, je sais pas.
Excusez-moi, Yael Mellul, je vais redire une chose à Thierry Fontaine, s'occupe de la branche des métiers de la nuit. Cet été, on n'a pas laissé ouvrir les discothèques, alors que ça aurait pu faire venir du monde. Et le principal cluster, ça a été les clubs libertins du Cap d'Agde. Alors, excusez-moi, la distanciation sociale en club libertin, c'est pas pire qu'en discothèque.
Donc, c'est compliqué.
Arrêtez de parler de votre expérience.
Mais non, je parle de l'UMIH nuit, mon cher Philippe.
Et si je peux me permettre une expérience, une petite note là-dessus, et j'entends Yael ce que vous dites, mais on se base sur quelle étude pour ça ? Parce qu'il me semble quand même que la sixième puissance mondiale aurait pu, avant, mais pas que pour parler des discothèques, quel que soit le métier, aurait pu au mois de mai ou juin se payer une petite étude. Ça doit coûter 500 000 ou 1 million d'euros, qui n'est rien à côté des 350 millions qu'on met tous les mois dans les tests PCR. On aurait pu se payer une petite étude pour vraiment définir où on se contaminait vraiment. Est-ce que c'était dans les cafés, les bars, les discothèques, ou dans les transports en commun, ou peut-être dans les facs, ou peut-être dans le cercle privé. Je pense que avant de prendre des mesures si importantes pour la vie des gens sur le destin d'un pays, on commence peut-être par le début, c'est-à-dire faire une étude, mettre un petit peu de sous là-dedans, en disant voilà l'état des lieux, et est-ce que réellement un café c'est contaminant, est-ce que réellement une discothèque c'est contaminant, et si ça l'est, qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure barrière, parce qu'on peut, on a accepté de supprimer nos pistes de danse pour que les gens dansent autour de leur table, comme des carrés VIP, mais dans toute une boîte.
Oh. Alors,
ensemble. Et ça, c'était pas
Abdoulaye Konté.
Monsieur Fontaine, oui. Bonsoir. Effectivement, bonsoir. Je sais que c'est une période difficile, évidemment, pour vous et pour l'ensemble de la profession. Et, mais après, je pense qu'effectivement, au niveau des gestes barrières, donc il est très difficile, évidemment, dans une discothèque de pouvoir les respecter, parce que c'est un endroit, effectivement, où on danse, où on est, on va dire, on est très proche, on va dire, très, l'un de l'autre et tout. Donc, est-ce que vous, vous avez fait des propositions enfin, par rapport à des protocoles sanitaires, justement, pour essayer de voir s'il y avait possibilité de faire respecter ces gestes barrières. Est-ce que, comme dans les restaurants, vous avez c'est pas, un espèce de traçage ou voilà, tout ce qui est gel hydroalcoolique, est-ce que vous avez proposé un espèce de protocole, justement, dans vos établissements ?
On a fait mieux que ça. A fait mieux que ça. On est le seul métier où nous avons négocié ce protocole point par point avec les médecins directement du ministère de la Santé, les médecins en charge du Covid-19. On a négocié ça avec eux le 2 juillet. Mmh. Et on est tombé d'accord et ils nous ont dit oui, en effet, grâce à la suppression de la piste de danse et les mesures que vous mettez en place,
nous sommes d'accord. Vous avez validé votre protocole ?
Ils ont validé, bien sûr, on l'a écrit ensemble. Ils l'ont pas validé. Tous les autres, ils l'ont fait valider. Nous, nous sommes le seul métier qui l'avons co-écrit avec eux. Donc vous imaginez. Et ça n'a pas passé la barrière. Le ministre de la Santé a refusé de le présenter au Conseil de Défense. Et donc, on en est à ce point. Voilà.
Philippe Bilger, un mot rapidement, vous qui êtes un danseur émérite.
Non, non, mais je comprends. Dans la mesure où Thierry a répondu par avance à l'objection que j'allais faire sur les gestes barrières, on est obligé de considérer que là aussi, pour les discothèques, il y a ce qui est le problème de ce pouvoir, des décisions et des arbitrages que le citoyen ne comprend pas de manière limpide. J'ai constaté que la seule chose qui a été totalement respectée, c'était le premier confinement parce que tout le monde l'a compris, mais là il y a des décisions bureaucratiques qu'on ne comprend pas.
Thierry Fontaine, rapidement.
Oui, et eh bien écoutez, nous on est un petit peu déçus, on espère que le gouvernement va enfin comprendre un jour qu'il n'y a pas qu'une seule manière de déconfiner et qu'il vaut mieux faire confiance à des professionnels responsables et respectables plutôt que laisser se développer des soirées privées qui, elles, sont sans aucune mesure barrière et aucune distanciation sociale. Si les gens veulent danser, c'est collé serré. Il n'y a rien de tout ça. Et en plus, on ne peut pas tracer ces gens puisque ça se fait dans le parfait anonymat. Et ça, ça contribue à des clusters, à des contaminations qu'on ne peut pas tracer. Et à cause de ça, on ne pourra toujours pas rouvrir. Donc c'est bien triste.
Merci beaucoup Thierry Fontaine, président de l'UMIH Nuit, les branches des métiers de la nuit et propriétaire de 4 établissements à Lyon. Tout notre soutien et tenez-nous au courant de l'évolution des choses, notamment des négociations avec le gouvernement, parce que c'est quand même pas possible d'empêcher les gens de travailler pendant presque un an. À 18h30, donc dans quelques minutes, notre grand débat. Producteur de musique tabassée, est-ce la faute du gouvernement qui a toujours nié les violences policières ? Vous êtes 67% à dire oui. Vous voulez réagir ? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Yael Mélul, N'Golo Kanté. Et juste avant de lancer notre troisième débat, on va écouter, j'ai dit N'Golo Kanté, Abdoulaye Kanté. Oh non, je sais pas pourquoi, j'étais au milieu de terrain de l'équipe de France. Bon, c'est une qualité. Hein,
ah non, c'est même pire qu'une qualité, c'est vraiment, voilà.
Il est petit, il a gentil, il a snobé Léo Messi. Voilà. C'était la chanson sur l'air des Champs-Élysées. On écoute tout d'abord ce son.
Je trouve assez insupportable quand on entend répression policière, quand on entend violence policière.
Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Je refuse ce terme.
Vous évoquez les violences policières, moi je recuse ce terme.
Quand j'entends le mot violence policière, moi je, personnellement je m'étouffe. Par principe, l'idée même de violence policière me paraît être totalement antinomique.
Vous avez entendu dans l'ordre Aurore Berger, député LAREM, Emmanuel Macron, président de la République, Sibeth Ndiaye, alors porte-parole du gouvernement, et Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre de l'Intérieur. La vidéo a choqué et indigné les Français. Une vidéo où l'on voit un producteur de musique appréhendé parce qu'il ne portait pas de masque se faire tabasser durant durant 7 minutes, 7 longues minutes, où il a reçu coups de poing, coups de pied, coups de matraque, des insultes. Sale nègre a fusillé à plusieurs reprises. Très vite, les policiers ont été suspendus provisoirement. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé leur révocation. Ces 4 policiers sont entendus cet après-midi même par l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Producteur de musique tabassée, est-ce la faute du gouvernement qui a doujourné les violences policières? Pour le moment, vous êtes 67% à dire oui et vous pouvez réagir au 0826 300 300 et sur Twitter. On va commencer avec vous quand vous êtes le policier. On a entendu ces 4 sons de une députée et 3 ministres ou anciens ministres. Est-ce que cette vidéo ne donne pas tort au gouvernement qui, depuis le début, dit qu'il n'y a pas de violence policière en France?
C'est un sujet qui est très grave quand même.
C'est un sujet clair.
Très grave. Et je pense que, effectivement, aujourd'hui, moi, ça fait 21 ans que je suis dans la police. Et je porte l'uniforme parce que je suis fier de porter l'uniforme pour être utile à notre société. Voilà. Mais effectivement, je ne peux pas me sentir concerné quand je vois des policiers, collègues, qui s'adonnent à ce genre d'actes, qui est totalement inacceptable. Inacceptable, c'est une réalité. Le problème des violences en question, donc on dit toujours violence policière, violence légitime, c'est une question que c'est une violence illégitime. Pour moi, j'appelle ça parce que on a le monopole en parenthèse de la violence pour pouvoir arrêter l'usage de la force strictement nécessaire. Là, concrètement, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. C'était totalement disproportionné et j'ai une pensée effectivement pour Michel Zecler par rapport à cela. Maintenant, le fond du problème, c'est que je pense qu'effectivement l'administration. Je parle de mon administration policière. Il est temps aujourd'hui de reconnaître certains mots. Voilà. Il est temps de reconnaître certains mots et pouvoir entendre aussi ces personnes-là, justement, à qui on fait face, qui sont victimes de ce genre de phénomène, qui pour moi est acceptable. Mais pour l'instant, je pense aussi aux 150 000 policiers, qui font très correctement leur boulot. Ça, il n'y a rien à dire. Mais ceux qui s'adonnent à ce genre de violence, effectivement, il faut régler le problème et de manière, on va dire, une bonne fois pour toutes, efficace.
Avant de donner la parole à la défense, c'est-à-dire à l'avocate, on va prendre l'avocat général Philippe Bilger. Quand vous entendez les propos de Aurore Berger, Gérald Darmanin, Sibeth Ndiaye, Emmanuel Macron, est-ce que ce qui s'est passé ne leur donne pas purement et simplement tort de A à Z ?
Non, pas du tout. Je ne crois pas que ce soit le pouvoir qui soit directement responsable de cette brutalité inouïe qu'on a pu voir dans la vidéo. On peut en revanche, bien sûr, dire que ce pouvoir, comme tous les gens qui l'entourent, n'ont jamais suffisamment distingué l'usage de la force légitime de la part de la police des quelques violences illégitimes qui étaient commises par des fonctionnaires, notamment par exemple à l'époque des Gilets jaunes. Mais là, ce qu'il y a de dramatique, c'est que d'abord, je n'ai pas une stupéfaction absolue, on ne m'apprend rien en me disant que des fonctionnaires de police, heureusement très rares, sont capables d'exercer des violences totalement scandaleuses. Deuxième élément, et là le phénomène est d'autant plus grave que nous avons une victime d'une totale bonne foi qui, pour une fois, n'est pas animée par une haine à l'égard de la police, qui a pris des coups, subi des violences et qui, après les avoir subies, reste porteuse d'un discours parfaitement exemplaire et démocratique. Alors, c'est tout simplement 3 à 4 policiers, comme le dit très bien Abdoulaye, qui ont déshonoré leur corps. Et il faut que dorénavant le pouvoir, et Gérald Darmanin le premier, sache qu'il a affaire à un corps policier majoritairement honorable, mais qui a malheureusement des délinquants, et que ceux-là, ils doivent être évoqués sans tarder dès lors que la cause est entendue.
Yael Mellul.
Alors moi, je suis d'accord avec Abdoulaye et avec Philippe. J'aime pas ce concept de responsabilité en cascade comme ça. Là, le gouvernement serait responsable des agissements de ses policiers. S'il y a des responsables, ce sont ces 4 policiers. Voilà, c'est ces 4 policiers qui ont eu des comportements totalement intolérables, qui ont fait un usage totalement illégitime de la force que leur permet leur uniforme. Et moi, ce que je voudrais souligner aussi, c'est la rapidité avec laquelle ils ont été sanctionnés déjà. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont été mis les quatre en garde à vue. Donc, quand il y a des membres de la police qui déshonorent leur corps, ils sont immédiatement sanctionnés. Et j'ai envie de dire, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Je veux dire, la majorité des policiers des forces de l'ordre font admirablement bien leur travail dans un climat qui est absolument mais terrible pour eux, avec une défiance pour la police qui est du jamais vu. S'il y a des policiers qui ont des agissements qui sont scandaleux, ils restent heureusement extrêmement minoritaires, et encore une fois, ils sont immédiatement sanctionnés. Et je ne sais pas si la garde à vue a été levée ou pas. J'en sais, j'ai pas suivi. Ils sont encore en garde à vue. Donc on va voir. Ils vont très certainement être mis en examen pour violence. C'est faux en écriture publique. Les faits sont extrêmement graves, parce qu'ils ont travesti complètement la vérité. Fort heureusement, il y avait des vidéos et ça aussi pour conséquence de remettre complètement.
Je pense qu'effectivement. Juste, avec toi, et c'est effectivement, je pense qu'il faut voir au plus large que ça. Donc il y a des responsabilités qui sont, on va dire, en cours d'être établies, mais effectivement je pense qu'il faut aller au plus profond que ça. C'est que je pense que aujourd'hui il faut aller dans la base de notamment de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est que quand vous avez des policiers, des jeunes policiers qui ont une méconnaissance, une mauvaise préparation dans laquelle ils vont aller face à la misère humaine. Parce qu'il faut savoir qu'un policier, c'est quelqu'un qui est en contact avec la misère humaine. Donc, il faut qu'il soit une éponge pour essuyer tout ce que les gens ne veulent pas voir. Et ça, il faut avoir une capacité d'absorption. Il faut avoir une capacité d'appréhender certaines choses. Voilà. Et je pense aussi que pendant toutes ces années, on est resté dans une espèce de forme d'entrisme où il y avait ce discours « circuler, il n'y a rien à voir ». Mais aujourd'hui, ce discours n'est plus entendable parce qu'il y a une réalité. Moi, le premier, je sais qu'effectivement, on a des fois, quand il y a certaines choses que peut-être on a l'impression de minimiser, mais des fois, ça prend une certaine proportion et on se dit « Ah, il y a un problème, et à un moment donné, il faut s'asseoir. » Écoutez, peut-être que sûrement, pour essayer de se faire mieux comprendre, il faut comprendre pourquoi on nous reproche cela. Sinon, on n'avancera jamais.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h39, ça réagit beaucoup au 0826 300 300, on va aller dans quelques instants. Violence, producteur de musique tabassée, est-ce que la faute du gouvernement qui a toujours nié les violences policières, vous êtes 71% à dire non sur Twitter, sur Twitter, on se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Yaël Mellul et Abdoulaye Kanté, je n'ai pas dit N'Golo Skoula. Notre second débat, producteur de musique tabassée, est-ce la faute du gouvernement qui a toujours nié les violences policières? Vous êtes 71% toujours à dire oui, et ça vote beaucoup. Et ça réagit au 0826 300 300, direction Toulouse. Bonsoir Cédric.
Bonsoir, merci de me prendre au téléphone.
Eh bien écoutez, c'est normal. Est-ce que vous avez été choqué, je pense que oui, par ces images de tabassage?
Alors, bah oui, forcément, qui ne peut pas être choqué par ce genre d'image. C'est tellement révoltant, c'est tellement violent que forcément on est hyper choqué. Mais moi, je voulais dans un premier temps remercier ce fameux Michel pour son attitude républicaine et pacifiste, parce que je crois que c'est vraiment un grand monsieur. Il a réagi comme il fallait. Il est resté tout à fait le plus zen possible dans cette attitude qu'on aurait tous imaginé mourir. Et en effet, il a failli mourir. Donc je voulais déjà remercier ce grand monsieur. Je pense qu'on peut le porter aux honneurs à ce niveau-là, parce que il a dû vivre un enfer. Il a dû vivre un espace de plusieurs minutes
très très longue.
Exactement. Donc ça a été, c'est pour moi très très compliqué. Ça a dû être très compliqué. Et je pense que dans cette histoire, les grands responsables, contrairement à ce que dit Yael, je suis désolé, mais je vais la contredire, c'est que les chiffres que demande le gouvernement à ses policiers sont tellement difficiles à tenir que forcément il doit avoir une pression phénoménale. Donc je pense qu'on n'est pas contre la police en général. Heureusement, ils sont là pour nous protéger, mais on est quand même contre, bien sûr, ces Robbie Galeuses qu'il faut absolument mettre à l'écart, ces ripoux. Il y en a je pense beaucoup moins heureusement que les policiers en général. Oui. Et quand on écoute Linda Kebab, qui est pour moi quelqu'un que vous avez souvent
qui est venu chez André Berkoff il y a pas longtemps,
voilà, moi je l'écoute et je suis admiratrice admirateur pardon de son discours, parce qu'en effet Attention à pas faire d'amalgame. Moi, j'ai des amis policiers, on en a tous, et ce sont des gens normaux qui essaient de nous de s'occuper de nous. Donc moi, voilà, je voulais poser une question à Yves de la Canté. Qu'est-ce qu'il en pense lui par rapport à la pression des chiffres? Parce que cette pression des chiffres doit être sur leurs épaules. Moi, je travaille avec des médecins qui eux ont la pression des chiffres à l'hôpital par rapport à la T2A, qui est aujourd'hui pas normal pour un domaine public. Donc les flics, c'est pareil. Pourquoi est-ce que les flics ont des chiffres à faire au quotidien?
Je pense qu'il faut pas s'arrêter.
Alors Cédric, on va faire réagir toutes les vraies voix. Abdoulaye Kanté, que vous êtes interpellé, Yael, parce qu'elle a interpellé, et bien sûr Philippe Bilger. Voilà.
Cédric, effectivement, c'est bien de le rappeler qu'effectivement, par rapport concernant la pression que nous subissons depuis des années, ça ne date pas d'hier, hein. Ça date pratiquement depuis plus de 10 ans. Avec les attentats terroristes que nous traversons, donc la police et aussi les manifestations, la police est sursollicitée. Elle est sursollicitée, mais elle le fait en plus de son quotidien. Je vous rappelle qu'il y a quand même 3 millions d'interventions par an. Une intervention de police toutes les 10 secondes, c'est quand même énorme. Et vous avez 15 000 policiers cette année, sur les 2 dernières années, qui sont blessés, voire grièvement blessés. Vous voyez ? Donc c'est une réalité. Et effectivement, je pense que le chiffre aussi, quand on demande une politique de chiffres, c'est vrai que ça rajoute encore un peu plus aussi sur les pressions et que ça peut aussi jouer, parce que vous savez, en tout uniforme, on le dit toujours, nous sommes des humains. Ceci dit, cela n'empêche pas qu'on doit rester quand même professionnel. Et ce qui s'est passé ce week-end, je pense qu'effectivement, on est tous d'accord, oui, effectivement, ça nous a fait mal. Voilà.
Yael Mellul.
Moi, je pense pas du tout que ce soit sous une quelconque pression de chiffres que ces 4 policiers ont eu ces agissements d'une violence extrême. Et en plus de ça, il faut rajouter le racisme de leurs propos, hein. Donc, je vois pas trop le rapport qu'il peut y avoir entre traiter un homme à terre de sale nègre et la pression qu'on peut avoir que ces hommes-là pourraient avoir sur des chiffres, hein, sur des chiffres à fournir. Hein.
Philippe Bilger, la politique du chiffre, c'est quand même une réalité. Moi, je me rappellerai toujours l'ancien patron de la sécurité publique de Toulouse, Jean-Pierre Avrin, que j'avais eu en studio, qui avait été remercié de manière
celui
pas très...
Celui qui a été limogé.
Par Nicolas Sarkozy, de manière pas très courtoise, c'est le moins qu'on puisse dire, quand il était ministre de l'Intérieur, qui disait, quand mes gars, la nuit, ont pas fait leur quota de PV d'arrestation, ils prenaient facilement, ils me disaient, on vous a ramené un chiteux et 2 putes. Je le cite, il l'avait dit dans ce studio. Est-ce que c'est pas aberrant la politique du chiffre dans ce domaine ?
Je ne crois pas que ce soit fondamental dans l'explication de ce qui s'est déroulé et qui est inouï de brutalité. Si je peux juste faire un rapprochement, il ne faut pas oublier cette affaire de violence illégitime de cet article 24 qui était un article nécessaire et que le gouvernement, par sa gestion erratique, a trouvé le moyen de mettre à bas. Deuxième élément, je crois plutôt dans l'explication qu'a donnée Alain Boer pour expliquer parfois les dérives graves de certains policiers, c'est qu'ils accumulent, à force de n'être pas respectés et en même temps d'être exigés en permanence sur le terrain à la seconde où on les sollicite, une série de frustrations qui parfois débordent de manière scandaleuse.
Mais oui, Yael, oui.
Est-ce qu'on pourrait pas juste dire qu'on a affaire à 4 connards, point ? Enfin, je veux dire, sans qu'on ait à trouver...
C'est le cas, sûrement.
Sans qu'on a contextualisé, à chercher, chercher des justifications psychiatriques, psychologiques, psychiques, ou que sais-je. Voilà, je veux dire,
On peut donner toutes sortes de justifications, mais je crois qu'aussi qu'il faut non plus. Je pense aussi reconnaître que on peut être fatigué ou quoi que ce soit, mais ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas encore certaines.
Ah, bien sûr, actes,
ça,
non,
soyons,
mais...
voilà. Et après, sinon.
Non, mais.
Et ça s'est passé dans le 17e arrondissement de Paris. Oui. C'était pas dans un quartier qui craint. C'est un très beau quartier de Paris, le 17e.
Mais c'est pas le problème du quartier. Ce que suggère Yael est très vrai, il faut se demander pourquoi ces 3 policiers tout à coup se sont abandonnés à un délire de violence face à quelqu'un qui était.
Il y a un contexte, il y a une enquête en cours et tout pour expliquer, mais après, c'est que je pense que l'action en elle-même qui a mené à cette action ultra violente et justement à ce voilà à cette agression envers ce comment dire Michel Zecler, je pense qu'effectivement c'est ça qu'il faudra avoir l'explication. C'est cette explication qu'il faudra avoir pourquoi ils sont donnés à ça et effectivement il faut leur faire comprendre que c'était inacceptable ce qui s'est passé et vous n'avez pas été déontologique.
Et on va revenir bien évidemment dessus sur Sud Radio et dans les vraies voix dans les jours et les semaines à venir. Merci beaucoup Cédric de Toulouse, c'était notre grand débat. Producteur de musique tabassée, est-ce la faute du gouvernement qui a toujours nié les violences policières? Vous êtes 71% à dire oui et maintenant ça va être beaucoup plus léger. Ça va être le clin d'œil des vraies voix, mon cher Jean-Marie Bordry. Qui est dédié ce soir à un Père Noël dans le Lot qui se retrouve malheureusement pour lui au chômage technique.
Effectivement, oui, c'est léger, mais malgré tout, c'est triste, c'est un signe des temps. On a parlé beaucoup des professions qui se retrouvent privées de travail en ce moment. On a parlé de l'événementiel aussi, des traiteurs. On a juste oublié de parler de ceux qui devraient commencer à bosser partout, les Pères Noël. Parce que oui, c'est un métier. Or, il y a un certain nombre d'annulations de fêtes de Noël dans les mairies, un certain nombre d'annulations de marchés de Noël aussi les grands places. Oui. Et du coup, certains Pères Noël, comme Patrick Julien dans le Lot, voient tous leurs contrats tomber les uns après les autres, alors que Patrick Julien fait ce métier depuis 30 ans. Bonsoir à vous, Patrick.
Bonsoir.
Je vous assure, vous regarderez sur Internet, Patrick Julien est le sosie du Père Noël qu'on a tous imaginé quand on était enfants avec une barbe blanche magnifique, effectivement, qu'il n'a pas envie de cacher derrière un masque. Alors effectivement, d'habitude, c'est le mois où vous le travaillez le plus. Vous avez combien d'annulations là, sur le mois de décembre?
Là, j'en ai déjà, une douzaine, 15 même, à peu près. Oui.
15.
De toute façon, je commence, moi, Noël et les marchés déjà au mois de novembre. Vers la fin, le dernier week-end de novembre, je commence. Quoi.
C'est
donc
ça.
Là, normalement, je devrais attaquer ce week-end. Ouais. Voilà.
C'est quoi le genre de contrat qui tombe? C'est quoi? C'est une mairie qui avait prévu une fête avec des gosses? C'est quoi?
Oui, voilà, ce sont des marchés de Noël, des mairies, des particuliers aussi. Mais enfin, les particuliers, c'est plus à la fin et voire le soir de Noël, puisque je fais maintenant en plus ça pour vraiment être au contact dans les familles.
Ouais.
Mais voilà, c'est des grandes sociétés,
comités d'entreprise.
Des comités d'entreprise, la sécurité sociale, je faisais Toulouse, la CAF, enfin voilà, je fais tout un tas de trucs, aussi bien privés que des mairies. Oui,
et tout est tombé au moins jusqu'au 15 décembre, c'est ça?
Là, j'ai encore eu, aujourd'hui, deux dates. Là. Je devais être à la mairie de Saint-Orens, pour le marché de Saint-Orens, le 12 au matin. Ouais. On vient de m'appeler, c'est annulé, là aussi. Enfin, déjà, minimum jusqu'au 12, et à partir du 15, où il devrait y avoir quelques changements, on attend que le préfet, puisque je dois aller à Saint-Gaudens, les élus aimeraient pouvoir satisfaire les enfants, mais ils attendent.
Ils attendent quoi en fait? C'est le protocole sanitaire? C'est quoi? C'est l'autorisation de réunir?
Moi, je suis qu'un petit Père Noël.
Bien sûr. Mais en gros, c'est quoi? Qu'est-ce qui coince? C'est qu'on n'a pas le droit de faire des petites fêtes avec 10 enfants, par exemple? C'est quoi?
Moi, ce qui est un peu curieux, c'est que, entre autres, à Saint-Gaudens, je me balade dans les rues.
Oui.
Donc, de 14 à 18 heures, je suis partout dans la ville.
Avec des cadeaux, vous chantez des chansons et ce genre de choses.
Voilà,
et ça, normalement, c'est possible.
Je ne suis pas au contact. Enfin, si on fait des photos, je peux être au contact plus proche. Mais enfin, non. Sans faire de photos, je n'approche aucun monde de très près.
Et du coup, ce sera encore plus difficile parce que par principe, le Père Noël, il ne peut pas reprendre du service en janvier. C'est un peu tard.
Il y a un grand monsieur qui a une écharpe rouge, là, que j'aime pas du tout d'ailleurs. Mais enfin, c'est le Père Noël, il aime le rouge, mais pas ce monsieur avec cette écharpe qui a dit que pourquoi on ne ferait pas Noël au mois de février ou au mois de mars.
Et là, Saint-Glinglin.
Là, ce n'est pas le Père Noël, c'est le barbier de Séville.
Une bêtise de plus.
Mais moi, je sais qu'au pôle Nord, à Corvatum-Tura, Je n'ai pas besoin de vaccin.
Mais écoutez, en tout cas, on vous souhaite bon courage malgré tout. On pense au Père Noël et à tous les enfants.
On compte sur vous pour le soir de Noël. Hein.
Ouais, oui. Et que vous pourrez récupérer quelques dates.
Ne vous inquiétez pas, ça sera sans masque, hein, je suis désolé. Donc, mais ce serait chez vous le soir de Noël.
Oui. Et écoutez, on essaiera en tout cas.
Vous pourriez passer à Sud Radio. Hein, quelques cadeaux.
Merci beaucoup. Bon courage, Patrick Julien. Père Noël depuis 30 ans dans le Lot.
Et félicitations. C'est les vrais voix, on se retrouve dans quelques instants.
Le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien, présent.
Sud Radio, Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant logement d'Osez Investir et vous nous emmenez cette semaine en Nouvelle-Aquitaine du côté de La Rochelle, ville de plus de 75 000 habitants, située donc en Charente-Maritime.
Oui Thomas, nous recevons effectivement Gilles Desvalois, responsable de l'agence immobilier Desvalois Orpi de La Rochelle.
Bonjour Gilles Desvalois.
Alors Gilles Desvalois, comment se porte le marché immobilier sur La Rochelle ?
Il se porte depuis les événements du second confinement de façon particulière. On a vu agents immobiliers à La Rochelle, mais comme partout en France, s'adapter aux nouvelles préconisations et régularisations qui nous ont été demandées par le gouvernement. Donc, on reste toujours actif sur le marché parce qu'aujourd'hui, dans ce deuxième confinement, on a plus de possibilités d'action.
Oui, parce que les agences sont fermées là en ce moment.
Absolument, les agences sont fermées, mais nous pouvons faire des visites virtuelles. C'est-à-dire qu'on a deux types de visites virtuelles. On fait une première visite virtuelle qui peut être classique avec de la vidéo, que l'on envoie aux clients ou depuis nos sites internet. Mais les nouveautés que nous avons mises en place, c'est que les collaborateurs, que ce soit pour la location comme pour la transaction, se rendent avec leur téléphone portable pour faire un mini-film vidéo en direct avec l'acquéreur.
Alors Gilles Desvalois, avez-vous un ultime conseil à donner à nos auditeurs qui voudraient investir dans votre ville de La Rochelle ?
Eh bien, qu'ils se rendent dans une agence Orpi, qu'ils se rendent dans des agences partenaires Orpi, parce que nous avons à leur offrir le meilleur choix des propriétés disponibles sur le marché.
Merci Gilles Desvalois d'être passé du côté d'Osez Investir. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'agence immobilier Desvalois Orpi à La Rochelle. Ben, quant à vous Bernard, je vous dis à la semaine prochaine pour mettre une nouvelle ville à l'honneur.
Sud Radio Osez Investir.
Avec le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Merci à vous, les vraies voix. Merci Philippe Bilger, Yael Mellul, Abdoulaye Kanté. Quel est le menu de la suite des vraies voix, Jean-Marie Gandry ?
Les vraies voix qui font bouger la France. Il vous aura pas échappé que demain, il y a beaucoup de commerces qui vont rouvrir à partir de 9h et ils avaient hâte. Malgré tout, ils ont quelques problèmes. D'abord, comment ils peuvent faire quand ils peuvent pas faire face aux échéances de leur loyer ? On leur explique tout avec nos experts fiduciales dans quelques instants pour les voix du système D. Puis après, les actus qui font bouger la France. On va plus loin que le déconfinement. Même après, quels sont les commerces qui pourront toujours tirer leur épingle du jeu et ceux qui s'en remettront pas ? Ne serait-ce que parce que la consommation des Français elle aura changé. On va en parler pendant une heure sur Sud Radio.
Et on reste bien avec vous, mon cher Jean-Marie Bordry.